Beaucoup de coéquipiers sont allés à d'autres aux branches de la mission pour des réunions. Certains sont allés à Swaman, les autres à Escorte. Et à ces deux endroits, il y a des enterrements. Frères et sœurs, il y a plusieurs branches. Et en tant que coéquipier, on sent qu'on n'est pas capable de couvrir toutes ces branches. À plusieurs endroits, ils nous invitent, ils disent, venez, on a besoin de vous. Hier seulement, j'ai eu un appel téléphonique d'une branche qui dit, ils ont, dont la personne a dit, oui, venez nous rendre visite. Oui, il y a des personnes qui viennent prêcher ici, mais nous avons besoin de vous, vous de Kouassi Zabantou, pour nous apporter le message. Et des fois, quand on va à ces branches, on commence la réunion finit par exemple à 12h30 et on commence à faire le conseil et ça peut terminer jusqu'à 18h. Vous voyez le besoin qu'il y a et c'est Dieu qui crée cette fin de l'évangile dans le cœur des gens. Et il y a vraiment, on a ce fardeau-là, parce qu'il y a aussi des écoles, on voit le besoin, ils ont besoin de l'évangile, et on doit organiser des sorties vers ces écoles. Et les enseignants de ces écoles-là ont vu la différence qu'il y a eu quand des équipes sont parties d'ici vers ces écoles à prêcher. Parce que les jeunes personnes ont besoin vivement de l'Évangile et même les personnes âgées en ont besoin. Jeunes personnes, en touchant le sujet du mariage, je dis, jeune personne, ne recherchez pas le mariage pour vous, de vous-même. Adam n'a pas cherché pour lui-même. Mais avec plusieurs jeunes gens, des jeunes hommes et des jeunes dames, c'est ceux qui contrôlent leur cœur et leurs pensées. Et ils se disent, avec qui? Et ils disent, qui sera mon époux ou mon épouse? Et les jeunes gens s'habillent d'une certaine manière aujourd'hui juste pour être vus du sexe opposé. Je prends mon exemple. J'étais jeune homme et je me suis dit que voilà, je vais me marier à l'âge de 40 ans. Et je m'étais dit que je veux être un bon exemple parmi tant d'autres jeunes. Pour qu'il voit qu'un jeune homme peut vivre pur et ne pas être contrôlé par ce désir. Et je me suis marié très jeune, avant 40 ans, et je me suis dit qu'après le décès de mon épouse, voilà, c'est fini, je ne vais plus me remarier. Et vous voyez que, et le Seigneur, et vous voyez que quand vous n'allez pas chercher de vous-même ou pour vous-même, le Seigneur, c'est lui qui apporte les choses pour vous. Et de cette manière, jeune personne, je veux vous reprendre de ne pas vous habiller d'une manière où, par exemple, un jeune homme s'habille pour que les filles le regardent, ou encore une jeune fille s'habille de telle manière qu'elle soit observée et regardée par les garçons. Et même dans leur manière de marcher, on peut voir déjà qu'elle veut être remarquée. Et s'il y a, par exemple, un événement ou une cérémonie, même quand elle doit manger avec des couverts, elle va manger d'une certaine manière avec ces couverts-là pour que ça attire le regard. Et c'est là une forme de vie du monde. Et Satan va contrôler une telle personne avec la convoitise de la chair. Quelqu'un a dit, je ne vais pas dire qui c'était, que la personne avait dit que quand le péché de l'orgueil pénètre dans un cœur, ça va ensemble avec le péché de la convoitise. Lorsqu'une personne devient orgueilleuse et qu'on remarque que la personne a été orgueilleuse, il n'y a pas de doute, on peut comprendre qu'il y a aussi le péché de la convoitise avec, ou de l'immoralité. Peu importe qu'on soit jeune ou âgé, marié ou non marié, lorsque ce péché-là entre dans une vie, il n'y a pas de doute, il n'y a pas de doute que le péché de l'immoralité ou de la convoitise va avec. Peu importe là où nous sommes, même si vous n'êtes pas ici présent, là où vous êtes, si vous pouvez vous lever ensemble avec nous pour qu'on chante ce chœur.
Geka silvana geka silvana geka silvana so.
En tant que jeune personne, quand on chantait que par le sang de notre Seigneur Jésus, on est sauvé. En 1963, j'étais encore jeune homme et je me suis dit, est-ce que je peux vraiment être sauvé par le sang de l'agneau? comment le sang de l'agneau, comment ce sang-là peut me sauver et accomplir une œuvre en moi. Mais lorsque j'ai alors donné ma vie au Seigneur et j'ai tourné ma vie à lui, et c'est là où que j'ai expérimenté la puissance agissante du sang de l'agneau à moi. Et lorsqu'il était aussi chanté qu'à Golgotha, que l'agneau a été crucifié à Golgotha, je me suis dit, ceux qui l'ont crucifié, c'est ceux qui étaient là à Golgotha, et pas moi, et non pas moi. Mais lorsque la parole a percé mon cœur, je me suis rendu compte que j'étais aussi coupable et que j'étais coupable d'avoir crucifié l'agneau à Golgotha. Quand j'avais parlé au révérend Stegen et je lui ai dit comment cela est possible que je n'étais même pas à Golgotha, comment suis-je coupable de sa mort? Et il m'a dit que à travers ta vie de péché et en continuant dans le péché, tu es en train de crucifier Jésus à nouveau. Et la parole du Seigneur a transpercé, a percé mon cœur et j'ai ressenti son sang me purifier et purifier mon cœur. Frères et sœurs, en réalité, cela est vrai. Peu importe la nation à laquelle on appartient, qu'on soit blanc, noir ou indien, mais à la croix, Jésus a été crucifié pour tes péchés et pour mes péchés. Grand a été ce jour-là lorsque j'ai été sauvé. Et tu peux aussi t'identifier avec cela quand tu dis grand a été ce jour-là quand tu as abandonné ta vie, quand tu as donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Et c'est un jour inoubliable. Quand tu t'es divorcé d'avec Satan, et tu as choisi Jésus et tu es devenu enfant de Dieu. Grand a été ce jour. Prions ensemble. Nous t'invitons au Seigneur pour être au milieu de nous. S'il te plaît, parle-nous au travers de ta parole. Amen. Nous allons lire dans la première épître de Jean, dans ma Bible, il est dit se tenir dans la vérité, dans la foi authentique. Ou demeurer dans la foi authentique. Est-ce que nous on comprend ce que ça veut dire, se tenir ou demeurer dans la foi authentique? Donc, en lisant cela, vous allez pouvoir discerner si vous êtes dans la foi authentique ou dans une autre foi. La parole de Dieu est comme un miroir pour nos vies. Donc, dans 1 Jean chapitre 1 au verset 5. Et marcher dans la lumière. Et toi, enfant de Dieu, tu peux discerner si tu marches dans la lumière ou pas. Et vous allez aussi apprendre ce que dit la parole au sujet d'une personne qui ne marche pas dans la lumière. Et celui qui marche dans la lumière aussi, on va aussi apprendre comment cette personne-là marche. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Nous allons répéter ce verset. La nouvelle que nous avons apprise de lui est que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Alors, nous entendons, nous apprenons que si nous marchons dans la lumière, il ne doit pas avoir de ténèbres en nous parce qu'en lui, il n'y a pas de ténèbres. Au verset 6, si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Et cela peut être vrai que tu te dis que tu prêches l'évangile, que tu te dis chrétien, alors que au même moment, tu marches dans les ténèbres. Certaines personnes vont même chez des sorciers lorsqu'ils veulent avoir des potions pour que le nombre des partisans dans leur église augmente ou pour qu'ils reçoivent des honneurs ou du respect de la part de ceux qui viennent à l'église. Mais ces personnes marchent dans les ténèbres et c'est des ténèbres spirituelles et même dans des ténèbres physiques, on peut dire que quand les gens ne voient pas, la nuit, ces personnes-là vont pour aller faire ces choses. Au verset 7. Mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Et c'est là le but pour lequel le Fils de l'homme est devint chair et il a été conçu dans le sein de Marie et il est né pour qu'on ait la communion avec lui Et des fois, on demande aux gens, est-ce que tu n'as rien à confesser, tu n'as rien à mettre en ordre? Et la personne dit, voilà, moi je n'ai pas de péché, est-ce que tu es devenu un ange pour que il n'y ait plus de péché en toi? Alors, nous pouvons écouter maintenant la réponse de Dieu à ce sujet. Il dit, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Et c'est comme ça qu'on peut remarquer ceux qui sont sauvés, ceux qui viennent afin que leurs péchés soient purifiés. Et toi, personnellement, quand était la dernière fois que tes péchés ont été purifiés? Même en allant chez quelqu'un, en s'excusant, ou en demandant pardon, en disant un tel, une telle, je demande pardon de ma manière de parler, je n'aurais dû pas parler de cette manière, j'aurais dû parler ainsi, ainsi. Tu demandes pardon. J'ai été si heureux lorsque j'ai vu un jeune enfant de 6 ou 7 ans, un jeune enfant blanc qui est venu pour confesser ses péchés. Je me suis dit, oh, ses parents peuvent être heureux, ils sont privilégiés et bénis parce que leur enfant, dans son jeune âge, il commence à confesser ses péchés. Et cela n'avait pas été écrit pour eux. Ils n'avaient pas une liste où ils devaient venir confesser ça, 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 non. Mais cet enfant-là, de sa propre bouche, a confessé certaines choses. Et c'est vraiment merveilleux de voir comment, dans le jeune âge, un enfant peut commencer à confesser ses péchés. Et là, nous allons maintenant dans le nouveau commandement, et cela nous le trouvons au chapitre 2, au verset 9. S'il vous plaît, soyez patient avec moi. Si je fais référence à pas mal de versets et qu'on ne développe pas autour de tous ces versets. Je vais faire référence de certains versets et je vais continuer. Et quand vous serez chez vous à la maison au calme, vous pouvez peut-être méditer autour de ces versets. Celui qui prétend être dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. Cette personne qui dit qu'elle est dans la lumière alors qu'elle est son frère, cette personne est encore dans les ténèbres. Alors, pose-toi cette question. Est-ce qu'il n'y a pas un frère dans la foi que tu es? écouter ce que la Bible dit de toi. Écoute, la Bible dit que tu es encore dans les ténèbres. Si tu as de la haine entre tes parents, ton frère, ta sœur ou quelqu'un, tu es encore dans les ténèbres, c'est ce que la Bible dit. Au verset 11, mais celui qui hait son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres et il ne sait où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Est-ce que tu peux vraiment l'imaginer qu'une personne qui se dit chrétien peut se dire chrétien qui marche dans les ténèbres et leurs yeux sont aveuglés et ils ne s'en rendent pas compte? Et tu ne veux pas recevoir de l'aide et tu as de la haine contre ceux qui veulent t'aider. Et quand les gens veulent t'aider, tu vas contre cela. N'es-tu pas dans les ténèbres? Et pose-toi la question. Et il est dit, tes yeux ont été aveuglés et tu ne vois même pas que la personne qui est en train de te reprendre, qui est en train de vouloir t'aider, tu ne remarques pas cela que la personne veut t'aider. J'ai dit cette parole est comme un miroir pour nous et tu dois regarder à cette parole et s'examiner en soi pour voir est-ce que on ne hait pas notre frère. Au verset 12, je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Alors, vous entendez que ceux qui viennent au Seigneur pour le pardon de leurs péchés et pour être purifiés, c'est eux qui sont ses petits-enfants. Mais il y a certains qui ont de la haine, de la rancune. Ils annoncent que leurs péchés ont été pardonnés. Verset 13, je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous écris, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. Cette parole, dans cette parole, nous sommes tous inclus. Père, mère, enfant, nous sommes tous concernés. Et comment encore la haine peut-elle encore avoir une place dans nos cœurs? Et ce qui suit maintenant est un avertissement sur l'amour du monde. Regardez un peu, considérez un peu l'amour de l'argent qui existe dans le monde et même parmi les soi-disant enfants de Dieu. Et cette parole ici met en garde contre cela. Et vous voyez la manière qu'ils font les choses, leur comportement, dans leur manière de marcher, de s'habiller, et tout l'ensemble ne peut, dans, tout cet ensemble-là expose la vie du monde ou démontre la vie du monde. Certes, quelqu'un a parlé ce matin à la radio et la personne a dit, regarde, a parlé aux femmes en disant que regardez la manière dont vous vous habillez aujourd'hui et de plus en plus, vos jupes sont en train de se raccourcir. Et il a aussi dit, mais mère, où êtes-vous ? Pour aider. Et quelqu'un a même dit que même quand les femmes mettent leurs mèches, elles doivent prier ou elles prient pour avant de les mettre. Et c'est une dame qui parlait. Cette dame encore dit que si un prédicateur reprend des personnes qui se comportent de cette manière dans son église. Donc la dame là disait que certains pasteurs ont peur de reprendre des personnes dans l'église qui se comportent de cette manière parce qu'ils ont peur de les perdre. Mais vous, dont la personne a dit, mais je vous dis, si vous êtes pasteur, si vous êtes parent, vous devez reprendre ceux qui font de cette manière. Au verset 15, n'aimez point le monde. Si les choses qui sont dans le monde, ni les choses qui sont dans le monde, si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Et j'ai parler de la convoitise. J'ai parlé de la convoitise au commencement et vous êtes dans la convoitise parce que vous êtes du monde. C'est pourquoi tu penses que tu es si attirante et tu aimes ton apparence à travers un miroir et tu es dans le monde. Et on trouve les personnes qui passent beaucoup de temps devant un miroir, ils se regardent de tous les côtés. Oh, l'orgueil et oh, l'attitude du pan qui va vraiment troubler cette personne. Et nous voyons aujourd'hui qu'avec tout cela, que le retour de notre Seigneur Jésus est proche. En aimant l'argent, en s'aimant eux-mêmes pendant qu'ils sont dans l'église. Et on peut voir comment le monde domine dans l'église. Alors, allons au verset 18. Donc, le titre dans ma Bible ici, c'est la venue de l'Antichrist. Et cela est proche, et on peut déjà remarquer vraiment, on peut déjà remarquer que la présence de, on peut déjà remarquer la présence de l'Antichrist. Et dans la manière de servir le Seigneur, dans ta manière de le faire, tu peux déjà indiquer, démontrer que tu as l'esprit de l'Antichrist. Et tu te dis enfant de Dieu, et tu te dis frère, et tu te dis chrétien, et tu te dis saint devant Dieu. Mais il y a des signes qui indiquent, qui montrent que tu es comme l'Antichrist. Petits enfants, au verset 18, c'est la dernière heure, et comme vous avez appris qu'un antichrist vient, il y a maintenant plusieurs antichrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous. Est-ce que vous entendez cela? Ils sont sortis du milieu de nous. Au verset 19, ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres, car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il soit manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Est-ce que c'est là un conte de fées que je suis en train de vous raconter ici? Ces personnes qui sont sorties du milieu de nous, c'est eux qui ont commencé à vivre ou à mener cette vie. À l'époque que Jean a écrit ça, il y avait des gens qui étaient sortis du milieu d'eux. Pareil que ce que nous expérimentons aussi au milieu de nous en ce moment. Jean était un homme et Jean était vraiment un vrai homme et il a dit que ces personnes-là étaient au milieu de nous et ils sont sortis au milieu de nous. Et c'est ce que nous aussi, on expérimente au milieu de nous. Au verset 20, « Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. » Et vous avez tous de la connaissance. Si vous êtes quelqu'un qui a reçu l'Évangile et que vous demeurez bon dans cet Évangile, vous faites partie de ceux-là qui ont reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Mais si vous êtes entré par la fenêtre, et alors vous n'êtes pas des nôtres et vous allez ressortir, repartir par la fenêtre. Alors quelle est cette vie-là que mènent ceux qui une fois ont été avec nous? J'ai dit, oh Dieu, aie pitié de moi, afin que je ne sois pas compté de leur nombre. Est-ce qu'il y a des gens qui nous aiment, qui ne nous aiment pas, qui sont parmi nous? Et certains maintenant choisissent dans leur cœur et dans leur pensée déjà qui ils aimeraient qu'ils... Ils choisissent la personne qu'ils veulent, le prédicateur qu'ils veulent dans leur cœur. Et quand ce n'est pas cette personne-là, la personne est vraiment déçue. Ces personnes-là ne sont pas un avec nous. Et cette personne-là peut faire leur valise et partir. Vous entendez cela et cela entre dans nos oreilles. Et si je vous dis qui cette personne peut être, vous serez vraiment étonné. Et le réveil est arrivé parmi nous. Et le réveil est arrivé au milieu de nous, une nation noire, une nation qui est méprisée, une nation que les gens rejettent. Je préfère n'être rien que de prétendre être quelque chose. Aussi comme Jésus est mort pour nous, comme on n'était rien, afin qu'on soit appelé enfant de Dieu. Et si tu es orgueilleux sur tes études, mais je ne dis pas que les études sont une mauvaise chose, mais si c'est là où repose ta fierté, je te dis que tu n'avanceras pas, tu n'iras nulle part. Et je te dis que le péché de l'orgueil et du pan est en toi. Au verset 21. Je vous écris, non que vous ne connaissez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Et la personne dit, oh, je n'ai pas fait cela, alors qu'ils sont en train de mentir. Et la personne opposée va leur demander, es-tu sûr? Et cette personne a les larmes dans les yeux. Et quand, après un temps, la vérité vient à la surface et c'est confirmé qu'elle a fait cela. Peut-être quelqu'un garde le silence sur une affaire avec une fille ou avec un garçon, alors qu'ils ont une relation, et quand on leur demande, ils nient le fait. Ils nient les faits. Et quand les parents viennent vers eux, leur parlent de ça, ils n'exposent pas les choses. Mais un jour, peut-être c'est la fille ou le garçon qui va dire que non, en effet, nous avons une relation. Qui va dire la vérité. Donc autant de Pierre avec Ananias et sa femme, on pourrait dire qu'en ce temps-là, c'était un mensonge blanc. Mais et tu dis que voilà, j'ai dit ce mensonge-là, mais je ne suis pas encore mort, mais spirituellement, tu es mort. Au verset 22. Qui est menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ? « qui est menteur sinon celui qui nie que Jésus est le Christ? Celui-là est l'antéchrist qui nie le Père et le Fils. Quand tu mens, tu es en train de renier le Père et le Fils. Faites attention, frères et sœurs, que tu ne rajoutes pas quelques épices dans ta parole, parce que de cette manière, tu rajoutes les choses et tu vas démontrer que tu as l'esprit de l'antéchrist en toi. Verset 23. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Quiconque se déclare publiquement pour le Fils a aussi le Père. Est-ce que tu entends cela? Si tu renies le Fils Jésus-Christ, tu n'as pas le Père, mais si tu déclare connaître le Fils, tu as aussi le Père avec toi. Je vais laisser maintenant ce sujet et toi, tu peux continuer avec ça et méditer plus loin. Donc, au chapitre 3 maintenant, et toi, enfant de Dieu, et toi, enfant de Dieu, tu dois te réjouir et tu vas expérimenter ce que c'est d'être avec Christ. Et les enfants de Dieu ont une marque, ont un signe. Avec cette marque, on peut remarquer que cette personne est enfant de Dieu. Et vous ne serez jamais dans la confusion de la position de cette personne-là, si elle est en Christ ou pas. Je suis devant ici, je transpire, mais avec respect, je garde ma veste, sinon je l'aurais enlevée. Certaines personnes viennent à la réunion sans veste, simplement avec une chemise. Quand on va au tribunal, on s'habille normalement de manière correcte. Et c'était comme ça avant. Je ne sais pas comment les choses se passent maintenant de nos jours. C'est de cette manière-là qu'on démontrait le respect aux magistrats. Et certaines personnes aussi prient sans respect à Dieu. Et c'est peut-être pour cela que leurs prières ne sont pas exaucées. Qu'est-ce qu'on dira d'une personne qui va dormir, qui dit seulement « Seigneur Jésus-Christ, Amen ». Prière ne va pas plus loin que le plafond. Même quand vous allez à une réunion, vous devez là aussi démontrer le respect. De cette manière, on pourra aussi le comprendre que vous êtes en train de démontrer du respect. Parce que vous avez ce signe, cette marque que vous êtes enfant de Dieu. Qu'est-ce que tu diras? Qu'est-ce que tu diras que si je suis devant ici, j'enlève ma veste et j'enlève même ma chemise de mon pantalon et je parle même à mon épouse ici? Qu'est-ce que tu diras? Nous devons démontrer que nous sommes enfants de Dieu. On voit aussi des dames qui portent des t-shirts à bandelettes, je ne sais pas comment dire, où on peut voir vraiment des épaules, où d'autres vont dans les réunions avec des pantalons, d'autres avec des jupes courtes, et de cette manière, elles disent qu'elles servent le Seigneur. Dis-moi, où est le signe et la marque que tu sers le Seigneur? Parce que je sais bien que la vérité est amère. Mais nous devons dire la vérité afin qu'un jour Dieu ne nous reprenne pas en disant « Pourquoi tu n'as pas dit la vérité ?» Et beaucoup de personnes ont haï le Seigneur Jésus. C'est pourquoi les personnes qui parlent du Seigneur Jésus-Christ sont haïes, pareil qu'ils ont eu de la haine pour le Seigneur Jésus. Et même Pierre, il a été un martyr, il a été crucifié. Et il leur a demandé que ne me crucifiez pas comme mon Seigneur, crucifiez-moi sens dessus-dessous, parce que je ne suis pas digne. Parce que Pierre, avec assurance, il avait parlé, il avait dit la vérité en disant que ne soyez pas comme des chiens qui repartent vers ce qu'ils ont vomi. Ne sois pas comme quelqu'un qui regarde la pornographie dans leur téléphone ou dans leur ordinateur et ils vont confesser ses péchés et un temps après, ils repartent vers ces choses-là. Cette personne est comme un chien qui repart à ce qu'il a vomi. Et on trouve même des personnes qui se souillent eux-mêmes. C'est vraiment une puanteur en présence du Seigneur, parce que c'est cela la vie de Sodome et de Gomorrhe. Parce que dans Ésaïe 59, nous lisons que leurs mains sont remplies de sang et de culpabilité et coupable devant Dieu. Peut-être une fille qui dit « Je suis vierge », mais elle est troublée par les mauvais esprits qui viennent la troubler la nuit, ces tocologes, ces esprits impurs, ces petits esprits impurs qui viennent troubler, ennuyer les gens pendant la nuit, que tu sois homme ou fille ou femme. Mais si ces personnes viennent dans le sang de Jésus et apportent ces choses dans la lumière, les personnes seront complètement libérées. Alors lisons au chapitre 3, verset 1. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Quel amour que le Père nous a témoigné. Il a envoyé son Fils unique pour nous, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Dieu nous a aimés avec un grand amour, de tel point, à tel point qu'il a envoyé son Fils pour que nous aussi nous soyons appelés enfants de Dieu. Et là, nous avons, à ce moment-là, nous avons cette marque que nous sommes enfants de Dieu. Et tous ceux qui nous regardent peuvent l'attester que cette personne, en réalité, est enfant de Dieu. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui. Lorsque nous arriverons au ciel et qu'on le verra apparaître, nous serons comme lui, nous serons semblables à lui. Cela sera merveilleux de voir comment le Seigneur sera avec nous et de voir son trône et qu'on sera assis au trône avec lui. Parce que la Bible dit que ceux qui vaincront seront assis sur son trône avec lui. Combien est grand ce trône, et tous ceux qui auront vaincu seront assis avec lui. Et ils ont cette espérance en eux, qu'ils sont victorieux, comme lui aussi il est victorieux. Parce qu'ils seront vainqueurs et ils seront assis avec lui. Verset 3. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Est-ce que vous entendez cela? Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Si tu te purifies en confessant tes péchés, alors tu as cette espérance en toi que lorsqu'il apparaîtra, alors tu seras semblable à lui. Est-ce que tu as encore cette espérance avec toi ou est-ce que tu as perdu cette espérance? Parce que ceux qui l'ont se purifient. Au verset 4, quiconque pratique le péché transgresse la loi et le péché est la transgression de la loi. Et si nous allons au verset 13, il est question de l'amour des frères. Et nous arrivons maintenant à cet amour que nous devons avoir entre les frères. Et si vous comprenez dans quelle direction je suis en train de partir, vous allez comprendre que là, c'est un enseignement. Au verset 13. Ne vous étonnez pas, frères, si le monde vous hait. Est-ce que vous n'expérimentez pas cela même dans votre propre famille? Quand vous vous êtes détourné du péché et de l'ancienne vie et que vous avez tourné, vous êtes revenu à la foi, est-ce que vous n'avez pas expérimenté que les gens de votre famille se sont retournés contre vous? Au verset 15, « Quiconque est son frère est un meurtrier, et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. » Ici, il y a cette grande affaire, vous l'entendez-vous, frère, que si tu es ton frère, ça veut dire que tu l'as tué. Alors reprenons ce verset. Quiconque est son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Écoutez, ne renversez pas les choses sens dessus dessous. N'allez pas maintenant vers votre frère, que celui que vous haïssez. Et lui dire que je veux venir te confesser que tout ce temps, je t'haïssais. Ne fais pas ça. Va chez ton conseiller. Peut-être téléphone, utilise ce numéro secret si tu ne vois personne. N'écoute pas, ne comprends pas, n'accepte pas ce qu'un conseiller pourra te dire s'il te dit que, voilà, va voir cette personne que tu es et confesse ta haine envers lui. C'est comme une fille qui va dire que voilà, il appelle un garçon en disant que je te téléphone pour te confesser que j'ai de la haine pour toi. J'ai de la haine pour toi. Mais c'est vraiment là un conte de fées. Et ce garçon-là va commencer à avoir aussi des pensées pour cette fille. N'écoutez pas cela. Que si quelqu'un te dit « va chez un garçon » et qu'on fait ça à ce garçon, ce n'est pas l'évangile que nous avons reçu. Ou toi, le garçon, tu cours vers la fille en lui disant que « non, je dois te confesser, je dois confesser vers toi, je dois te confesser que je t'aime. » Alors on reprend, on va contre de telles choses et de telles choses ne sont pas correctes. Non, ne dis pas que c'est le Seigneur qui te conduit. Ce n'est pas le Seigneur, c'est le diable lui-même. Tu ne peux pas dire, « Oh, ma femme, pendant tout ce temps-là, j'étais toujours haï. » Non, c'est un évangile différent. Ne faites pas ça. Et si toi, en tant que conseiller, tu donnes de tels conseils, alors, tu es en train de dérouter les enfants de Dieu. Oh, le garçon vient vers la fille. Oh, je suis troublé par la convoitise et les pensées sur toi. Je ne peux pas dormir pendant la nuit. Non, c'est là un autre évangile qui sort du puits de l'enfer. Ne faites pas de telles choses. Et vous savez que celui qui est son frère est un meurtrier et aucun meurtrier n'a la vie éternelle en lui. C'est ce que la Bible dit pleinement, que cette personne n'a pas la vie éternelle demeurant en lui. vous avez entendu ce que j'ai dit dès le commencement? Qu'il y a un pasteur qui dit aux dames dans son église que qu'elles mettent ou qu'elles utilisent les mèches pour leur tête, elles doivent le faire dans la prière. Écoutez ce que au chapitre 4, au verset 1, il est dit. Bien-aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Nous devons tester chaque esprit pendant cette période de l'Antéchrist pour voir si cet esprit vient de Dieu ou pas. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu, tout esprit qui déclare publiquement pour Jésus, Christ venu en chair, est de Dieu. Et tout esprit qui ne déclare pas publiquement pour Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Et c'est comme ça que les choses sont en ce moment, de nos jours, avec l'Antéchrist. Les gens viennent, ils disent qu'ils sont prophètes, ce sont des serviteurs de Dieu, alors qu'ils sont des faux prophètes. Autrefois, on les appelait des prophètes, aujourd'hui, ce sont des pasteurs ou des prédicateurs. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Le Seigneur est grand. S'il est en toi, s'il est en vous, alors tu marches avec celui qui est plus grand dans ta vie et dans ton cœur. Et personne ne peut sortir le Seigneur Jésus de ton cœur. Nous allions dans des réunions pendant les temps difficiles et des fois à des tentes, dans les tentes, et on était des fois, on nous interdisait des fois d'y aller. Mais des fois, on nous interdisait d'y aller. Mais Dieu était dans nos cœurs et personne ne pouvait l'ôter de nos cœurs. Et secrètement, nous allions dans ces réunions. Et certains étaient même battus parce qu'ils allaient dans ces réunions. Mais dû au fait qu'ils avaient le Seigneur Jésus dans leur cœur, ils ne pouvaient pas les arrêter. Et vous avez quelqu'un de grand en vous parce que vous marchez avec Dieu. Au verset 6. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Alors que vous nous écoutez, si vous connaissez Dieu, alors vous comprendrez et vous saisirez le message et vous comprendrez ce que je suis en train de vous dire. même si le message est encore prêché pendant la semaine, si vous connaissez Dieu, vous comprendrez le message. Et il continue que celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. Celui qui n'est pas de Dieu, cette personne-là n'écoute pas et la personne-là ne nous comprend pas. Parce que cette personne n'appartient pas à Dieu et cette personne ne nous comprend pas. Peut-être tu es inquiété, tu es troublé pendant que tu écoutes. Et tu te dis, mais j'entends le message, mais je ne comprends pas ce que ça signifie. Alors, examine-toi. Examine ton cœur. Si tu atteins un jour le ciel, est-ce que tu pourras, avec ce cœur, comprendre le Seigneur Jésus? Appartiens-tu à Dieu ou pas? Et cela m'a beaucoup touché quand j'ai lu que nous sommes vraiment de Dieu, nous sommes nés de Dieu. Lorsque on se repent, ce qu'on tourne vers Dieu, quand nous sommes nés de nouveau, nous sommes à ce moment-là nés de Dieu. C'est Dieu qui nous a engendrés, frères et sœurs. Si nous sommes nés de Dieu, comment cela peut être possible encore d'avoir de la haine au milieu de nous? Moi, en tant que noir, avoir encore de la discrimination ou de l'apartheid dans mon cœur pour le frère blanc. Quel genre de Jésus ai-je dans mon cœur en tant que chrétien noir quand j'ai encore quelque chose contre mon frère blanc? Dis-moi, toi qui dis tu es chrétien, toi qui es blanc, est-ce que tu as vraiment Jésus dans ton cœur lorsque tu as encore quelque chose contre ton frère noir parce qu'il est noir ou parce qu'ils sont noirs? Dis-moi, comment vas-tu partager le ciel avec ton frère noir alors que tu as de la haine pour lui? Il y a un seul enfer, un seul ciel, un seul Dieu que nous servons. Est-ce que toutes ces choses-là peuvent être en inimitié les uns contre les autres? Est-ce que tu expérimentes cette unité absolue avec tes frères? Parce que la Bible nous enseigne que nous devons tous être un. Par exemple, si la voiture de Pretorius a eu un accident, je dois avoir de la sympathie avec lui. Je dois vraiment ressentir que voilà, je suis vraiment en peine, désolé avec toi parce que cette chose t'est arrivée. Et peut-être tu vois un frère qui conduit une nouvelle voiture, une belle voiture, et tu dois te réjouir avec ce frère-là parce qu'il a reçu une voiture. Et non pas que tu es jaloux en disant que je souhaite qu'il ait un accident et que sa voiture soit réformée. Mais si mon frère et ma sœur ne vont pas bien, je dois avoir de la sympathie dans mon cœur afin qu'ils recouvrent leur santé. Et c'est là une marque qui démontre que nous sommes en vérité enfants de Dieu. Alors pose-toi cette question, est-ce que tu as cette marque en toi, cette marque qui montre que tu es vraiment enfant de Dieu? ceux qui ont cette espérance en eux, ils se purifient comme lui-même est pur. Parce que lorsqu'il apparaîtra, on sera semblable à lui. Ceux qui pêchent sont en train vraiment de se noyer dans leur souillure. Si tu te regardes au miroir de la parole de Dieu pour t'en rendre compte de là où tu te tiens, est-ce que tu as regardé, tu as examiné les coins de ton cœur pour voir comment tu te tiens devant Dieu? Et tu as appris que si tu es ton frère, tu es meurtrier et la vie éternelle ne demeure pas en toi. Prions ensemble. Seigneur, merci pour ta parole. S'il te plaît, aide-nous, Seigneur. Et qu'on puisse marcher dans tes voies comme il le faut. Comme Seigneur, et si nous trouvons quelque chose qui n'est pas en ordre, aide-nous à le mettre en ordre. Seigneur, nous avons appris que ceux qui ont cette espérance en eux se purifient.